Apparu avec la société de consommation et tous ses débordements, les emballages se sont inscrits dans une économie d'abondance peu soucieuse de l'environnement. Mais depuis 15 ans, une véritable révolution s'est mise en marche. Concevoir des emballages moins lourds et moins volumineux, plus facilement recyclables, qui auront un impact environnemental le plus faible possible tout au long de leur vie, est un nouveau défi planétaire. Éco-design chemin vertueux, première partie, entretien de Jean Tonelli avec Fabrice Pelletier.
Monsieur Fabrice Pelletier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un nouveau livre très intéressant qui se nomme « Éco-design, chemin vertueux ». C'est vrai que l'emballage fait partie des grandes pollutions actuelles dans notre société de consommation. Et vous, vous parlez justement de chemin vertueux par rapport à l'emballage. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors là, je crois qu'il faut vraiment raison garder par rapport à les propos que vous tenez. L'emballage est une des principales sources de pollution de notre société. Je crois que l'emballage est avant tout le bouc émissaire de notre société, parce qu'il a le tort d'être visible. Il est systématiquement stigmatisé comme l'horreur de la société de consommation. Je crois qu'il faut revenir aux chiffres, même si les chiffres sont toujours sujets à discussion. Les déchets d'emballage, en fait, en 2006 en France, représentaient un gisement de 4,4 millions de tonnes, soit un très très faible pourcentage des 849 millions de tonnes de l'ensemble des déchets de l'activité française, et un peu moins de 10% des 45 millions de tonnes des déchets municipaux. Donc ça, c'est peut-être la première précision qu'il faut faire. Ensuite, la deuxième précision, si vous voulez, c'est que le Grenelle de l'environnement, en fait, l'emballage l'a débuté dès 1992 avec le décret Lalonde, suivi par la création d'éco-emballages, la collecte et le tri sélectif. Et aujourd'hui, sur ces 4,4 millions de tonnes de déchets d'emballage, 2,9 millions de tonnes sont déjà recyclées, donc, et resservent à faire de l'emballage ou d'autres objets. Alors, de là à dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, évidemment non. Mais je crois que focaliser l'attention sur la lutte contre les déchets systématiquement, elle contribue en fait à occulter les principaux impacts environnementaux du cycle de l'emballage. Parce que l'emballage, bien évidemment, en fin de vie, c'est une ordure, mais quand on se focalise là-dessus, en fait, on se focalise chez le consommateur et sur la phase de la collecte sélective. Or, l'emballage, en amont, c'est de la matière première, c'est de la fabrication et surtout, c'est énormément de transport. Et je crois que là où on se trompe et en stigmatisant ces déchets, sur lesquels il faut bien dire qu'on est quand même globalement en Europe assez bon élève, c'est qu'il y a beaucoup d'autres problèmes au niveau des emballages et qui sont essentiellement liés aux phases logistiques. Donc je m'inscris un petit peu en faux parce que en allant systématiquement sur les déchets, on occulte le vrai problème. C'est un petit peu, je dirais même pas, c'est la face cachée de l'iceberg ou la face visible de l'iceberg, les déchets. C'est le petit drapeau sur l'iceberg, les déchets par rapport à l'impact environnemental de l'emballage.
D'accord. Donc vous dites que l'impact principal de l'emballage, si je vous ai bien compris, c'est en fait l'énergie qui sert au transport des denrées.
Des denrées et des emballages,
bien sûr,
bien
oui.
Évidemment. Dans le livre, vous verrez que dès le début de livre, on recontextualise et en matière d'environnement, il faut systématiquement recontextualiser sur le cycle de vie. Qu'est-ce qu'un emballage ? Un emballage, c'est d'abord du matériau d'emballage. Donc vous avez les matériaux dits renouvelables, papier, agromatériaux. Le verre est un petit peu entre les deux. Et puis vous avez les matériaux non renouvelables, fossiles, les pétroles et les minerais. Donc déjà, vous avez un impact environnemental à la fois quand vous prenez des matériaux et ensuite, un impact environnemental de la transformation, mais entre l'endroit où on prend le matériau et l'endroit où on le transforme, on a déjà un camion qui va venir. Quand un emballage est constitué de plusieurs matériaux, ben, vous multipliez le nombre de trajets par le nombre de camions. Ensuite, ce qui est très très important à saisir, si vous voulez, c'est que l'industrie Au XIXe siècle, d'ailleurs, on parle beaucoup de pôles de compétitivité, mais au XIXe siècle, les pôles de compétitivité, ils existaient déjà. Parce que, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Les industries, par exemple, de la boîte de conserve, qui étaient autour de Nantes, et donc aussi bien les légumes, aussi bien les sardines, et ben, les fabricants d'emballage se sont mis à cet endroit-là. Donc, on était dans une économie de porte à porte au XIXe siècle, et par les différents rachats, la mondialisation, aujourd'hui, les industriels n'hésitent pas à continuer à produire, par exemple, dans la région de Nantes, et à acheter de l'emballage dans des pays beaucoup plus attractifs économiquement, et faire traverser l'Europe, par exemple, d'est en ouest. Parce que à l'Est, ben, l'emballage coûte un petit peu moins cher pour aller remplir de l'emballage. Donc là, un des problèmes de ça, et d'ailleurs le Grenelle a souligné, un des problèmes, qu'est-ce qui fait de l'émission de CO2? C'est beaucoup, beaucoup le transport. Et un de ces problèmes, c'est d'aller acheter le moins cher possible dans des pays lointains. Et puis, on ne sait pas que l'Europe est inondée de camions qui transportent de l'emballage vide.
Oui, ça veut dire qu'en fait, le coût de transport n'est pas assez onéreux pour inciter les industriels à ne plus faire ce genre de stratégie.
Alors, un, le coût du transport n'est pas assez onéreux, c'est une évidence, bien que là, avec un baril à 100 dollars et qui va monter, de façon inéluctablement, il va monter, parce qu'on n'a plus, on n'a plus les quantités de pétrole. Je crois que
En même temps, il y a une pression sociale qui est de dire aider les braves travailleurs à conserver leur emploi et ceux qui ont un pétrole trop cher qui élimine les marges bénéficiaires, il faut les aider. On a ce discours récurrent qu'on va avoir aussi pour les transporteurs dans quelques temps, je le suppose.
Mais c'est le discours du développement durable, si vous voulez. Moi, je pense que, de toute façon, du transport, il y en a et il y en aura toujours pour amener les emballages pleins de l'usine où on le fabrique chez les consommateurs. Ça, vous ne pourrez pas enlever ce transport. Par contre, vous pouvez largement optimiser le transport de l'approvisionnement. Et là, vous avez, je dirais, on peut presque diviser par deux les impacts environnementaux du transport. Donc, tout ça est un équilibre. Oui.